Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en alpha-1 antitrypsine ou DAAT. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Maëva Zisman. Docteur Zisman, bonjour.
Bonjour.
Docteur Zisman, vous êtes pneumologue du service de pneumologie du CHU de Bordeaux. Vous avez coordonné les recommandations de la SPLF dédiées à la prise en charge de la BPCO et vous avez participé à la rédaction du récent PNDS dédié à l'atteinte pulmonaire associée à un déficit en alpha-1 antitrypsine, publié en décembre 2022. Alors, docteur Zisman, nous abordons aujourd'hui l'impact pulmonaire du déficit en alpha-1 antitrypsine. Et tout d'abord, quels sont les symptômes pulmonaires du DAAT ?
Alors, en effet, le déficit en alpha-antitrypsine a pour principal symptôme des symptômes respiratoires, qui sont effectivement des symptômes que l'on retrouve également dans une maladie beaucoup plus fréquente qui est la BPCO ou l'emphysème pulmonaire, et qui se compose principalement d'une dyspnée ou d'un essoufflement, et également d'une toux associée à des expectorations. Et de manière ponctuelle, il existe des phénomènes aigus à type d'exacerbation ou de bronchite qui peuvent se gréver sur l'atteinte chronique des symptômes respiratoires associés au déficit en alpha-antitrypsine.
Et quels sont les facteurs aggravants de cette maladie rare ?
Alors, comme il s'agit d'une atteinte pulmonaire qui, comme je l'ai dit précédemment, se compose d'emphysème pulmonaire majoritairement, toute exposition environnementale peut aggraver cette maladie, au premier rang desquels évidemment le tabagisme, qu'il soit bien sûr actif, mais également le tabagisme passif, mais également les expositions environnementales autres, comme les expositions professionnelles, par exemple, à des poussières notamment, mais également très probablement la pollution environnementale.
Et pour ces patients, quelle prise en charge non médicamenteuse peut-on proposer ?
Alors, il est très important justement d'insister sur la prise en charge non médicamenteuse puisque c'est vraiment un pilier de la prise en charge globale de ces malades. Au premier rang desquels, évidemment, on va limiter les facteurs aggravants de l'atteinte respiratoire, notamment sur le sevrage tabagique qui est impératif chez ces malades atteints de déficit en alpha-antitrypsine. Et puis, on ne l'a pas évoqué pour le moment, mais cette maladie a atteint également le foie et donc l'exposition à l'alcool et aux autres toxiques du foie est également à limiter au maximum pour ces malades. Par ailleurs, la prise en charge non médicamenteuse, à savoir l'activité physique régulière, la réhabilitation respiratoire lorsque le patient présente des symptômes invalidants, sont également à promouvoir de manière très importante chez ces malades. Et puis les autres mesures non médicamenteuses telles que la vaccination, notamment contre le pneumocoque, la grippe et le Covid, sont également vivement recommandé.
Et au niveau des traitements médicamenteux, c'est quoi ?
Alors, pour les traitements médicamenteux, il y a les traitements médicamenteux de la BPCO, qui sont des bronchodilatateurs adaptés aux symptômes du patient. Donc, ils peuvent être des bronchodilatateurs de longue durée d'action. En pratique, il en existe de plusieurs types. On peut les associer entre eux. On peut même y associer des corticoïdes inhalés lorsque les patients présentent des bronchites ou bien des exacerbations répétées. Et une fois que ces traitements inhalés sont mis en place, eh bien, on peut proposer dans certaines conditions des perfusions de traitements substitutifs de ce déficit en alpha-antitrypsine qui doivent être basés sur la fonction respiratoire puisque celle-ci doit être altérée de manière significative pour pouvoir bénéficier de ces traitements substitutifs qui sont en perfusion.
Et pour ce déficit en alpha-1 antitrypsine, quelles recommandations peuvent suivre les médecins ?
Alors, il est très important de se reporter justement au PNDS, mais également aux recommandations de la Société de pneumologie en langue française, qui a été établie très récemment en 2022, puisque toutes les recommandations ont été mises à jour et concernent aussi bien le dépistage de cette maladie, le dépistage éventuellement des proches, mais également les recommandations thérapeutiques non médicamenteuses et médicamenteuses.
Et ensuite, docteur Zisman, quel suivi proposer aux patients ?
Alors, il est très important justement que ces patients puissent être suivis dans des centres experts de ces maladies, notamment pour leur faire part des innovations thérapeutiques qui existent dans ce domaine. Il existe actuellement des traitements différents ou modernes dans le cadre de ces prises en charge qui sont actuellement en essai thérapeutique dans certains centres. Donc ces patients doivent être adressés dans des centres de référence et puis le suivi va être selon l'atteinte respiratoire et selon la gravité gravité de l'atteinte respiratoire. Et dernier point, on proposera très volontiers à ces patients de participer à des cohortes, souvent internationales, permettant de mieux connaître ces maladies rares. Et donc, le message principal est réellement d'adresser ces patients au centre de référence de maladies rares.
Eh bien, merci mille fois, Dr Zisman, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est le déficit en alpha-1 antitrypsine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.